Radio Libertaire 89.4. Oui, Radio Libertaire.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le Ferry Club sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste. Aujourd'hui, un petit entretien, long entretien, première partie d'un entretien avec Alaric Perrommier de La Mémoire et la Mer.
Oui.
J'ai tant pleuré que je n'ai plus le souvenir de mes alarmes, car j'ai versé jusqu'à la larme qui me donnait l'air ingénu. Et si mon cœur n'est pas plus pur que la source où boivent mes rêves, c'est qu'il est transpercé de glaives et qu'il reste criblé d'azur. Si j'avais les yeux du bon Dieu, je me nouvelles, il verrait ce qu'on a cru voir, tous les millions de désespoirs vomis par mille clientèles. Si j'avais les yeux du bon Dieu, je pleurerais des larmes rouges. Et jusqu'au plus profond des bouges, j'apporterai la paix des cieux. J'ai tant battu la vanité que le sang me monte à la tête, moi qui croyais être à la fête et qui vis dans l'absurdité. Le grand amour que j'ai conçu pour les humains de la déroute a terminé sa longue route et je demeure un invendu. Si j'avais les mains du bon Dieu, je me misère, dans les coulisses du bonheur, il pourrait se pétrir des cœurs à renverser la terre entière. Si j'avais les mains du bon Dieu, je giflerais la bourgeoisie et trouverai des chirurgies pour occuper ces beaux messieurs. J'ai tant chanté les désespoirs que ma voix s'est humanisée, qu'elle semble être passée sur de sinistres abattoirs. Je me fous de leur rédemption et je ne crois pas au miracle, car dans l'enfer de mes débâcles, Satan n'est qu'un échantillon. Si j'avais la voix du bon Dieu, je l'humaniserais et dans le micro dépouillé, je l'emprisonnerais et sur les ondes migratrices s'envolerait le chant nouveau qui bercerait tous les salauds à la recherche des polices. Si j'avais la voix du bon Dieu, je gueulerais dans le silence de l'éternelle voûte immense que l'on prétend être les cieux.
Bonjour Alaric.
Bonjour Davou.
Comment vas-tu?
Ça va.
Je te reçois aujourd'hui, je suis content de t'avoir dans les studios, ça me fait plaisir.
Bah merci, je suis content que tu m'invites.
Pas la dernière fois qu'on s'était vu, c'était au mois de juillet avec toute une bande de potes. On était partis à 21h, on avait pris le bateau ferré et puis on a dû se quitter sur les coups de 3h, quelque chose comme ça, avec Hervé Trinquet qui était là notamment, qui a fini par passer un coup de balai quand même parce qu'il tenait plus. Et aujourd'hui je te reçois pour toute autre chose. On va parler ensemble de l'intégrale qui vient de paraître aux éditions...
La mémoire et la mer.
Aux éditions La mémoire et la mer, s'il vous plaît. L'intégrale qui regroupe l'ensemble des parutions de Léo pour la période 1944-1959, qui s'intitule « La vie moderne ».
Qui date de 1958, et c'est une des chansons, selon moi, les plus intéressantes de cet album, d'ailleurs, parce qu'elle est très particulière, elle est en dehors des standards habituels, elle fait, je ne sais plus combien de minutes, 7 minutes, quelque chose comme ça, voilà. Et où il critique de manière très ironique différents aspects de la vie moderne. Et donc Mathieu Ferré, donc, qui est le fils de Léo et qui anime les éditions La Mémoire à la Mer, avec Alain Remaker, son ami et qui lui-même est éditeur musical et phonographique, ont décidé d'intituler ce coffret La vie moderne, et ça, je trouve que ça lui va très bien.
Cette intégrale qui est donc sortie en forme de coffret, alors on va... Avant toute chose, parler de l'objet en lui-même, qui est quand même magnifique. Comme je disais, il y a 14 CD, c'est une très jolie boîte, avec un petit livret qui accompagne, avec quelques explications qui sont fournies par Mathieu et d'autres qui sont fournies par Alain Remaker, dont tu parlais à l'instant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'entrée sur ce très bel objet ?
Eh bien, écoute, ça vient remplir un vide, parce que cette partie de l'œuvre de Léo avait déjà été éditée en coffret CD dans les années 90 par Sony, qui dans ses portefeuilles de labels, tu sais, c'est les poupées russes, hein, les majors qui se rachètent et tout ça, possédait les droits du catalogue Odéon, donc qui était la maison de disques principale de Léo sur cette période. En fait, Léo commence à enregistrer en 1950. Là, c'est une intégrale qui va de 1944 à 1959. Mais ce qu'il a enregistré et qui a été diffusé commercialement, dans le commerce, commence en 1950 chez Le Chant du Monde, qui est un micro-éditeur musical au départ, très axé sur la musique symphonique, chorale russe, et qui donc a des accointances avec le Parti communiste français. Et bon, Léo, anarchiste, échoué un peu là par le hasard des relations, signe avec eux un contrat d'édition musicale, donc il dépose des partitions de ses chansons, et le label était censé lui trouver des interprètes. Et ça ne va pas vraiment se passer, il ne va pas trouver vraiment d'interprète, c'est un peu la misère, quoi. Et donc c'est comme ça que progressivement, Léo va être amené à chanter lui-même ses chansons pour défendre ses chansons. Alors, puis le succès aidant, des interprètes vont venir de plus en plus chanter ses chansons, surtout à partir de fin 1952-1953, Paris Canaille. Mais donc du coup, en 1950, le contrat d'édition musicale qu'il a avec Chant du Monde commence à prendre le virage phonographique. Et donc là, il signe un deuxième contrat où il enregistre ses premiers 78 tours. Et c'est le premier disque d'ailleurs de l'intégrale qui s'appelle Le Temps des Roses Rouges, où il y a, pendant cette session, il enregistre, je ne sais pas, 16 titres, quelque chose comme ça. Ils ne seront pas tous diffusés à l'époque, mais il y a deux versions alternatives d'ailleurs. Mmh. Et c'est ses premières chansons qu'il va reprendre après. Et après, en 1953, suite au succès de Paris Canaille, il est signé par un gars qui s'appelle Édouard Dory, qui était directeur artistique chez les Disques Odéon. Dory signe Montand, quand il explose, quoi. Et puis il signe, sur le versant peut-être plus intello, il signe Ferré. C'est un peu les deux vedettes chansons où ils essaient peut-être un petit peu de renouveler leur, de se rajeunir, d'être un peu dans le coup, dans l'air du temps. Et donc du coup, l'intégrale Sony, qui reprenait juste les enregistrements Odéon, couvrait la période 1953, puisque le premier album de Léo, c'est chez Odéon, qui s'appelle Paris Canaille d'ailleurs, jusqu'en 1958 avec encore du Léo Ferré. Et donc si tu veux, je parlais de vide, c'est-à-dire que Sony avait publié cette intégrale début des années 90, je ne sais plus trop, peut-être après la mort de Léo, 94, quelque chose comme ça. Et puis plus rien, ça n'était pas reconduit, quoi. C'était pas... Et puis en fait, au fur et à mesure... ces enregistrements sont tombés dans le domaine public. Alors le domaine public, c'est qu'en fait, 50 ans après leur date d'enregistrement, en fait, ces enregistrements peuvent être repris et vendus dans le commerce par n'importe qui. Et donc on a vu fleurir, notamment sur les plateformes, si tu veux, de vente numérique sur Internet, des trucs sous des pochettes hideuses avec des contenus un peu en bordel. Alors il y a eu un petit temps de latence, et puis dans les années 2000, en fait, les éditions La Mémoire et la Mer avaient commencé à publier elles-mêmes, des rééditions d'albums. Elles avaient réédité Paris Canaille, Chanson de Léo Ferré, qui est donc en fait la reprise, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué, mais Léo enregistre en 1950 ses 78 tours pour le Chant du Monde. C'est diffusé, ça reste un peu confidentiel et tout. Bon. Et ensuite, à cause de son contrat, il est censé réenregistrer des choses et il ne le fait pas pour le Chant du Monde. On ne sait pas bien, ce n'est pas attesté vraiment, mais bon, par déduction, ça ne se passe pas bien avec eux, quoi. Il ne fait rien, on ne lui demande rien, c'est, bon, ça reste comme ça. Et il est signé par Dory, il va chez Odéon, il y a le succès de Paris Canaille, et là, il commence à être un peu plus reconnu par les gens du milieu, même si la reconnaissance critique et vraiment du grand public n'est pas encore là. On le reconnaît comme étant un auteur-compositeur-interprète qui a une voix singulière, et donc il enregistre son premier album qui est Paris Canaille. Et à ce moment-là, le Chant du Monde se réveille en disant « Ah, mais le contrat, il faut quand même, là, vous nous devez 12 chansons et tout. » Et il retourne en studio avec eux et il réenregistre un album dans de meilleures conditions techniques, les mêmes chansons que celles qu'il avait faites en 1950. Et donc, c'est les chansons de Léo Ferré. Alors là, dans le coffret, c'est un peu particulier. Mathieu ne l'explique pas trop, mais il l'a mis en deuxième position parce qu'en fait, effectivement, c'est le même corpus de chansons. C'est en piano-voix, donc il y a une unité esthétique, alors que l'album Paris Canaille est orchestré par un orchestrateur maison qui s'appelle Jean Faustin, qui n'est pas l'orchestrateur le plus talentueux de la Terre, hein. Il n'a rien de très spécial. Je trouve, moi, personnellement, qu'il abîme un peu les chansons de Léo avec des arrangements un peu datés, un peu verbeux, avec des contre-chants d'instruments qui... C'est un peu du babil. Ça ne sert pas forcément le propos mélodique de Léo. Il va s'améliorer au fur et à mesure. Et puis, Léo va s'en émanciper de ce gars-là. Il va faire ses trucs dans son coin. Il va rassembler un certain... On peut en parler après au fur et à mesure des autres albums, mais des musiciens autour de lui. Et il va essayer de créer un peu son avec son petit groupe de copains, quoi. Mais pour ça, pour dire que du coup, Chanson de Léo Ferré, selon moi, est enregistré, enfin c'est pas selon moi, ça on le sait, il est enregistré après Paris Canaille et il est sans doute publié après. Donc en fait, normalement, ce serait ça devrait être en troisième position dans le coffret. Mais bon, là, pour des raisons esthétiques, il a été mis en deuxième. Et donc du coup, si tu veux, pour le coffret Sony, ça s'arrêtait en 58, celui-là s'arrête en 59, il reprend une année où Léo n'enregistre pas officiellement, mais il y a des enregistrements à la radio. Et il remonte surtout très en amont, puisqu'il remonte en 1944. Et alors, c'est des enregistrements sur disque Piral qui ont été retrouvés dans les archives de Léo, des trucs tout fragiles où, en fait, quand ils les ont mis sur une platine pour les numériser, tu peux le faire qu'une fois, quoi. Ah, sinon, après, ça se pète. Donc, il ne faut pas se louper. Et donc, bon, il y a certains enregistrements. Il y en a combien? Il y en a 5, 6, 7 peut-être. C'est sur le
document premier disque.
J'anticipe peut-être. C'est sur le. Alors, parce qu'en fait, il y a des documents, évidemment, trois disques de documents à la fin, les disques 12, 13 et 14, qui sont chronologiques et qui rassemblent tous les enregistrements qui n'ont pas été officialisés, enfin, c'est-à-dire publiés par du vivant de Léo.
D'accord.
Et donc, les premiers sont des choses qu'il a sans doute enregistrées à Radio Monte Carlo, où il vivotait un peu comme pianiste, accompagnateur, programmateur, on ne sait pas trop, un peu homme à tout faire. Et il a dû enregistrer, à titre de maquette, sur ces supports-là, ses premières chansons. Et on sent bien, alors qu'il a 28 balais quand il fait ça, quoi. Donc il est jeune, le son n'est pas très bon. Et puis lui-même, dans son chant, ce n'est pas du tout le Léo qu'on connaît d'après, puisqu'il roule l'air, vieille école, quoi.
Ça, c'est incroyable. Il y a des chansons où il roule l'air, c'est vraiment surprenant, quoi. Ouais. On ne le reconnaît pas du tout.
Non, on
reconnaît à peine. On se demande vraiment si c'est Léo quand on fait attention. Oui, on reconnaît quand même quelques inclinaisons de sa voix, il n'y a pas de souci, mais on est quand même très, très surpris.
Mais dès qu'il monte à Paris en 1947, il abandonne les airs roulés. Alors que tu as plein de chanteuses, Catherine Sauvage les gardera jusqu'à la fin.
Ouais,
quoi.
Tout à fait.
Mais j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais te dire. Oui, les enregistrements du départ. Oui, donc on est remonté très loin sur ses premières chansons, sur disque Piral, et puis aussi des choses qu'il a enregistrées à la radio, parce qu'en fait, il passait beaucoup, il venait dans des émissions sur des thématiques données, et en fait, il devait présenter une chanson en fonction de la thématique.
D'accord.
Donc ça le faisait bouffer, parce que voilà, il touchait un cachet pour ça. Et donc il y a plein de chansons de cette époque-là, un peu alimentaires, on peut dire, sans être dépréciatif d'ailleurs. C'était des commandes en fin de compte, et c'est ce qui l'a fait écrire par exemple Le Bateau Espagnol, des choses comme ça. C'est des choses ou l'île Saint-Louis, c'est des choses ou le métro qui fait partie des inédits. Ce sont des choses qu'il a écrites pas de lui-même, mais parce qu'en fait les circonstances l'ont amené à écrire ces chansons-là.
Les métros vont, les métros viennent, roulent à bosse et va bon train. Descendez-vous à la prochaine, c'est toujours le même refrain. Les amoureux de la chapelle qui ne seront jamais bénis descendent à bonne nouvelle pour y voir finir leurs ennuis. Austerlitz, un général, boit du cognac à trois étoiles. Et les marins de l'arsenal se sentent du vent dans les voiles. Les métros vont, les métros viennent, roule ta bosse et va bon train. Descendez-vous à la prochaine, c'est toujours le même refrain. Métro des garçons et des filles, jasmin ne fait pas le printemps. Les mi-juillet de la Bastille ne reviennent pas tous les ans. Métro vaillant des volontaires qui roulaient des hymnes guerriers. À Cambronne, il vaut mieux se taire, on ne sait pas ce qui peut arriver. Les métros vont, les métros viennent, roule ta bosse et va bon train. Descendez-vous à la prochaine, c'est toujours le même refrain. Métro bancal des Invalides, l'uniforme te va bien mal. La pucelle des Pyramides n'était même pas caporal. Métro qui roulait vers les gares, vos cargaisons de liberté. Finirez-vous à Saint-Lazare, à Pâques ou à la Trinité. Les métros vont, les métros viennent, roule ta bosse et va bon train. Descendez-vous à la prochaine, c'est toujours le même refrain. Métro cruel de République, qui dirigez vos bataillons vers le travail automatique comme celui du portillon. Et toi, métro de la Concorde, station des illusions perdues. Si tu me trouves un bout de corde, moi je peux te trouver les pendus. Les métros vont, les métros viennent, roule ta bosse et va bon train.
Nous descendrons à la prochaine, histoire de faire une fin, histoire de faire une fin, histoire de faire une fin.
Donc on est sur, la volonté de, d'éditer, ces, de rééditer ces, ces disques de la même manière qu'ils ont été édités à l'époque, véritablement.
Voilà, ça c'est aussi la nouveauté, c'est que ça prend 14 disques, mais ça pourrait tenir sur moins. En bourrant les disques et en mettant 80 minutes de musique avec tu vois, 25 titres par disque, il serait tout à fait possible de faire tenir ça en 10 disques, 9 disques. Mais le confort d'écoute en pâtirait. Et donc, Mathieu et Alain, je précise que donc, je travaille aussi avec eux.
Ah oui,
moi, j'anime le site officiel de Léo Ferré. C'est pour ça que je connais un peu les coulisses.
Oui, un petit peu, ouais, on peut le dire.
L'idée était de pas être dans une comment dire une présentation compilatoire anthologie, enfin anthologie ça veut dire que c'est une sélection, il n'y a pas tout, mais une bourrer les galettes si tu veux, parce qu'en fait on perd un petit peu de focus dans le parcours d'écoute. Et moi, je défendais l'idée et ils étaient d'accord, en fait, en fin de compte, que Léo, vraisemblablement, la plupart du temps, pas à chaque fois, mais la plupart du temps, avait la main, décidait lui-même de son couplage, de comment, en discussion sans doute avec son directeur artistique de chaque maison de disques, de comment ouvrir l'album, comment finir la face A, comment rentrer dans la face B, comment sortir de la face B.
C'est ce et que donc, tu appelles le couplage.
Le couplage, c'est-à-dire le parcours d'écoute d'une chanson à l'autre. Dans quel ordre il met, comme il composait lui-même ses tours de chant, enfin avec plus ou moins l'aide de sa femme, mais ensemble. Pour ses albums, je pense qu'il réfléchissait à, déjà dans la sélection, parce qu'en fait il disposait, quand il arrive en 1953 chez Odéon et qu'il enregistre son premier album, il y a 9 titres dessus. Bon, il dispose du double, voire du triple de chansons dans sa besace, en fait. Donc, il sélectionne celles qu'il va mettre sur cet album et il les met dans un certain ordre. Donc, il y a quand même un geste artistique. C'est pas, si tu veux, comme des artistes, comment dirais-je, de moindre envergure qui rentrent en studio pour enregistrer un EP. Donc, ils enregistrent 4 titres. On voit si ça marche. Bon, si ça marche, ils enregistrent un EP. Et puis, quand ils ont 3 EP... Et bah, 3 fois 4, 12, ils ont fait un album de 12 titres, tu vois. Et beaucoup, par exemple, d'albums de Brel sont en fait des assemblages de petits disques édités comme ça au compte-gouttes. Il n'y a pas une volonté, une pensée de la part de l'artiste, de Brel en tout cas, de rentrer en studio en ayant pensé à son cycle de chansons. Et voilà, ça fait sens, c'est ça que je veux faire. Si je ne dois plus faire de disques, et bah, je reste sur cette note-là. Alors que Léo, il pense album. Et plus tard dans sa carrière, comment dire, son ouverture à la pop culture, à la musique rock et tout ça aidant, il a beaucoup pensé en termes de concept, même s'il en a peu réalisé en fin de compte. Au final, il est toujours pressé par le temps et en fait, il fait des albums de chansons classiques. Mais sur le papier, il rêve à des albums concept assez ambitieux, avec vraiment une direction. Et donc là, c'est pas le cas, mais en tout cas, l'idée, c'était de respecter ça. Donc, puis aussi il y a le côté bel objet qui participe de ça, de la nostalgie, d'avoir la pochette originale, ce qui n'était jamais, depuis les vinyles en fait, ça n'avait été jamais édité en CD sous les pochettes originales. Et donc évidemment on a les visuels très très vintage, des illustrations.
Tu as la pochette, tu as également l'impression sur le disque qui reprend les sillons et qui reprend
du
en
vinyle,
fait le, ouais voilà, du vinyle. C'est très joli, ça je pense que ça plaira aux collectionneurs. J'en connais quelques-uns qui seront très sensibles à cette présentation.
C'est ça, c'est que donc à partir du moment où on respectait les albums originaux, eh bien on se retrouve avec des CD qui font 10 chansons au lieu d'en faire 20. Donc ça fait plus de disques au total, mais ça participe du coup de reparcourir l'œuvre vraiment en écoutant, en faisant l'expérience d'écoute des auditeurs de l'époque quand ils mettaient leur... Sauf qu'évidemment, là, on coupe pas le disque pour passer d'une face à l'autre.
Bien sûr, c'est... Oui, bien sûr. Confort d'écoute, et puis je trouve que c'est très intéressant du point de vue de la perspective aussi, de bien se rendre compte que ça a été... Voilà, chaque élément se sont succédés les uns les autres.
Alors, on voit la progression de l'artiste.
Ouais, la progression de l'artiste, ouais. Et puis de manière très découpée finalement, comme ça a été découpé dans le temps. Et ça, je trouve que c'est un petit effort sympa, enfin il n'y a pas d'effort d'ailleurs du coup, mais
c'est une attention disons au fait de rendre vraiment le plus intelligible possible la trajectoire de l'artiste.
Absolument.
Et c'est sûr que quand tu condenses 3 albums sur un seul disque, c'est tu peux le faire mentalement, mais tu y es moins invité, en fait, par l'objet.
Moi, je suis ravi de la parution de cette intégrale. J'en suis ravi parce que, comme je te disais il y a quelques instants de cela, hors antenne, moi, c'est une période que je connais beaucoup moins bien que la période de chez Barclay et la période de La Mémoire et la Mer, qui sont, moi, mes périodes de prédilection, peut-être tout particulièrement la période de La Mémoire et la Mer. C'est vrai que c'est un moment de la création de Léo que j'allais dire que j'apprécie moins, mais c'est pas vrai, que je connaissais moins et que grâce à cette intégrale, je redécouvre et vais redécouvrir parce que je n'ai pas encore eu le temps de tout écouter, mais que je redécouvre avec grand plaisir et beaucoup d'étonnement. Parce que c'est vrai qu'il y a, comme tu disais, un ton qui est plus léger, qui est plus... Tu utilisais un mot tout à l'heure qui me semblait parfaitement approprié, mais
grinçant.
Malheureusement... Ouais, grinçant, mais il est grinçant. Ouais, enfin, non, mais il y a quelque chose de très chansonnier, finalement, dans l'identité, entre guillemets, de ces albums-là, qui est, moi, pas forcément celle vers laquelle je vais aller. C'est vrai qu'on parlait du terme de harangue tout à l'heure, et c'est vrai que c'est davantage le Léo, moi, qui m'interpelle et qui, finalement, me séduit. Mais... il y a déjà beaucoup de sens, il y a déjà beaucoup de choses, il n'y a pas que des petites chansons.
Mais je pense qu'on a... C'est-à-dire que, bon, le temps a coulé sous les ponts, enfin, l'eau a coulé sous les ponts, et le temps a fait son ouvrage, et effectivement, ça nous paraît peut-être plus inoffensif, parce qu'on a écouté plein d'autres choses depuis, et dont le Léo ultérieur. Alors, c'est sûr que quand on compare Merci mon Dieu ou Monsieur Tout Blanc avec Il n'y a plus rien, ça paraît inoffensif. Parce que Monsieur Tout Blanc, c'est une chanson où il critique Pie 12. Bon, mais de manière très allusive. Et la musique est toute douce. Il prend toujours le contre-pied musical. Donc il ne cherche pas la... Contrairement à Il n'y a plus rien, où il cherche à asséner. Il cherche une forme de violence symbolique et puis verbale, voilà, et sonore même. Là, c'est moins le cas. Et donc du coup, forcément, par comparaison, je pense qu'il ne faut pas comparer, que c'est une erreur, mais... par comparaison de prime abord, on se dit bon, oui, c'est daté ou c'est moins, c'est l'expression d'une révolte un petit peu timide. Mais je pense qu'on a oublié que ce qu'étaient les années 50 en fait. Et bon, c'est très difficile, hein, on n'y était pas. Bon, mais je pense que quand on s'en, enfin moi, pour m'être intéressé un petit peu à la réception critique de Léo à cette époque-là, enfin pendant toute sa carrière, mais aussi pendant cette période-là. Il est quand même identifié comme un type qui fait des brûlots politiques. Monsieur Tout Blanc, c'est interdit d'antenne. Ses chansons sont interdites d'antenne. Dans Paris Canaille, qui est une chanson guillerette avec une introduction bon, c'est le cirque, c'est... Voilà, c'est aussi pour ça que ça marche. C'est qu'en fait, bon, ce qui marche, Léo le disait très bien, il en avait conscience. C'est les chansons rythmées, sur des rythmes à la mode. Voilà, comme aujourd'hui, on écouterait des, je sais pas, des trucs de R&B ou des trucs où il faut qu'il y ait un rythme appuyé, que ça pulse. Ça a plus de chances de faire un succès qu'une chanson down tempo, mélancolique. Bon, mais donc c'est tout ce paradoxe de cette décennie où il fait beaucoup des chansons rythmées comme ça. Peut-être un peu... peut-être un peu poussé par sa femme et par son désir légitime de reconnaissance aussi. Je pense que Léo, c'est quelqu'un qui veut prouver au monde qu'il est digne d'être aimé, quoi. Parce que son père ne lui a pas exprimé comme il aurait pu lui exprimer son amour. Il y a quelque chose de psychanalytique là-dedans.
Ouais, tu crois, ouais.
Je pense, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de... que Léo, il a une revanche à prendre, quoi. Mais, et donc du coup, là, ça se manifeste comme ça. Mais au fond de lui, ce qu'il préfère faire, c'est faire la chanson du mal-aimé et les fleurs du mal. C'est pas faire de la chansonnette, c'est pas faire Paris Canaille. En fait, Paris Canaille, au fond, ça, il le fait parce que ça marche et que il va pas cracher sur le confort que ça lui apporte, la forme de reconnaissance indirecte que ça lui apporte.
Ouais, le public aussi que ça lui amène.
Oui, 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 oui. Ouais. Mais... bon, il fait ça et en même temps, il fait Merci mon Dieu, il fait des chansons, il fait les graines d'ananas.
Eh bien, dans la vie, il y a des graines qu'il n'est pas recommandé de semer. J'en connais une. C'est une graine d'homme. De ces hommes qu'on appelle les anards. En voici un que j'ai appelé graine d'ananas.
La La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, faut pas s'en mêler, je suis un type à part, une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un collier. Un collier tressé de chanvre, il était un foutu foulard à graines d'ananas. J'avais des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi c'est jamais peinard, la graine d'ananas. On me dit que c'est fini, je vous dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et de la société. La belle société qui se met à se mêler de mettre au rancard la graine d'ananas. Pourtant se d'oubli, l'oiseau fait son nid. Messieurs les corbeaux passeront ma peau comme elle est amie. Mais auparavant, j'aurai comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas.
Féry Club sur Radio Libertaire.
C'est-à-dire qu'on a du mal à mesurer aujourd'hui qu'à l'époque, il était déjà perçu comme un provocateur. Enfin, comme un. Son travail était... C'est-à-dire que l'époque était tellement plus, bon enfant, enfin dans la chanson, dans la candeur, dans l'expression de la joie, même s'il y avait aussi des chansons néo-réalistes très tristes ou nettes. Brassens, parallèlement, quand il fait la mauvaise réputation, voilà, ces individus, bon, tous les deux étaient anarchistes d'ailleurs, il n'y a pas de secret, mais... qui affirment leur différence vraiment en chanson, en parlant en leur nom, c'était quelque chose d'assez nouveau, en fait. Ouais. Ça sortait de, si tu veux, des figures de genre que tu pouvais trouver dans la chanson néo-réaliste, parce que bon, Piaf, elle chante des choses, mais elle se met pas en jeu elle-même, si tu veux, en tant que personne. Quand Ferré fait Graine d'ananas, c'est lui, c'est vraiment moi, Ferré. Mais tu vois, ça va vite, c'est une période où il va vite, en fait. C'est des images en rafale, comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'aimait beaucoup Catherine Sauvage, qui va le chanter beaucoup. Et donc, du coup, il ne s'attarde pas dessus, ce n'est pas le sujet central. Mais c'est un coup de griffe en passant. Et ça, ça ne passait pas à l'époque, tu vois. Et donc, du coup, évidemment, alors le livret d'Alain remet un petit peu, Alain Remaker, remet un petit peu dans ça, tout ça en situation, mais... Si on n'a plus ces clés-là, on peut trouver que bah, Monsieur Tout Blanc, c'est qui le Monsieur Tout Blanc Donc ça nécessite peut-être un petit peu plus de contextualisation là, qui est faite dans le livret, mais parce que ce n'est pas immédiatement agressif dans la forme. Comme tu disais, effectivement, c'est une rondeur. Enfin, je ne sais pas s'il y a une rondeur, mais peut-être même une acidité quand même. Un peu,
peut-être parce une petite touche, ouais, quand même.
Parce que c'est plus dans le chant aussi, il se cherche plus dans le chant. On sent que des fois, il chante pas, enfin, il hésite entre l'ancienne manière et puis quelque chose de plus, moderne, je dirais.
Avant de dire un petit mot quand même peut-être de chacun des disques, même si sur certains ça va aller très vite, hein, il y aura pas forcément grand-chose à dire, mais bien sûr, cette intégrale recouvre la période 1944-1959, et forcément on est intrigué, on se dit, bah oui, mais il s'est passé beaucoup de choses après. Est-ce qu'une autre intégrale, plusieurs autres intégrales sont prévues à la suite de cette première? Parce que c'est
qu'est-ce que tu aimerais d'avoue?
Ah ben moi j'aimerais...
Dis-moi, qu'on réalise tes désirs les plus fous.
Bah écoute, je sais pas, mon désir le plus fou, le désir le plus fou. Non, ça serait tout simplement enfin, d'une manière, rapprochée dans le temps, enfin de tout faire paraître. Un peu de la même manière que cette première, faire ensuite un coffret avec les années Barclay, faire ensuite un coffret avec les années La Mémoire à la Mer, ou avec un ou deux ou trois coffrets, je ne sais pas, je ne m'en rends pas bien compte du nombre de disques.
Écoute, ça n'est pas impossible du tout. En fait, c'est même ce qui est un peu prévu.
Ouais.
Alors, faut pas faire de plan sur la comète, parce que aux éditions La Mémoire et la Mer, je me souviens qu'au début des années 2000, ils avaient annoncé des publications qui n'ont jamais eu lieu. Moi, j'y étais pas à l'époque. Donc, l'idée, c'est évidemment de faire la suite. C'est pas de s'arrêter là. C'est de proposer. Alors, plutôt que de faire une gigantesque intégrale unitaire, tu vois, avec tout, qui serait très très coûteuse.
Bah oui.
C'est de faire plusieurs coffrets. Et donc, du coup, faire ce coffret qui correspond aux enregistrements qui sont tombés dans le domaine public. Ensuite, il y aurait un coffret qui irait de 1960, ce qui répond à ta question, de 59, on passe à 60. Bim, ou Léo signe chez Barclay. Donc, ce serait 1960-1974. Et après, Léo, en fait, va chez CBS où l'herbe n'est pas plus verte, et puis récupère les droits de ses albums. Et après, en fait, il devient son propre producteur. Mm-hmm. Et en fait, tout ça est rassemblé. Aujourd'hui, tous ces droits-là, c'est La Mémoire et la Mer qui en disposent. Donc, c'est 75-91 jusqu'à la mort de Léo, quoi. Et donc là, ce serait un troisième coffret studio aussi, des albums de 1975 Ferré Muet à 1991, Une saison en enfer.
D'accord.
Donc on réfléchit à comment on agence les choses. Et puis, pourquoi pas, en avril dernier, enfin de l'année dernière, 2018, nous avons sorti, c'était la première sortie d'album posthume de Léo depuis 10 ans, c'était Je parle à n'importe qui. C'était le quatrième, je crois, album d'inédit, d'enregistrement inédit fait à la maison par Léo. Il y en a d'autres encore, quelques-uns. Donc tout ça pourrait ressortir sous une forme de coffret aussi.
C'était le premier, tu dis
Depuis 10 ans. Il y en avait eu trois. Il y avait Métamec, il y avait eu Maudit soit-il, et puis Les fleurs du mal, suite et fin.
D'accord, ouais, très bien.
Donc, si tu veux, il y a de la matière. Donc, l'idée, c'est de continuer cette année-là, là, en 2019, au moins de faire le coffret La Mémoire et la Mer de la période 75-91. Et puis, en espérant que Universal nous emboîte le pas pour faire la période intermédiaire. Et comme ça, les gens pourraient avoir vraiment tous les hauts, l'œuvre enregistrée studio, sur trois coffrets, ce qui permet de pas forcément tout acheter d'un coup. C'est moins coûteux pour les gens. Et de se les faire offrir par différentes personnes.
Éventuellement, bien sûr.
Et puis, là, au moins, on aurait vraiment une... Évidemment, la logique serait la même, hein, album par album, avec les couvertures originales et les couplages de chansons originaux. Et ce serait une manière, comment dirais-je, pas ultime, mais en tout cas, peut-être la plus adéquate. Parce que toi, tu me disais hors antenne que tu avais commencé avec le pavé, l'intégrale Barclay de 89.
L'affreuse intégrale Barclay de 89.
Qui ne respectait pas les albums.
Qui ne respectait rien du tout.
Ouais, ouais.
C'est terrible de commencer Léo avec
Richard
ça.
C'était Richard Marsan, il faisait un peu comme il voulait.
C'est Marsan qui avait décidé de ça, de changer complètement l'ordre des albums.
Je ne sais pas si c'est lui, parce que je pense que tu vois, le début du CD... Les gens étaient dans l'industrie très ça fait 80 minutes, on va faire du contenu.
D'accord,
donc on empile.
On bourre et puis on verra
ce
qui se passe.
Et aujourd'hui, les gens sont plus revenus on respecte les albums originaux.
Là pour le coup, ce qui est le cas parfaitement avec cette intégrale La Vie moderne 1944-1959 qui est disponible chez tous les bons disquaires, cela dit. Tiens, est-ce que tu en connais le prix?
Alors, je crois que on le vendait sur le site à prix réduit pour le lancement. Il était à 39€.
D'accord.
Ce qui est très peu cher pour 14 disques.
14 disques.
L'objet est beau.
Ouais, tout à fait.
Le prix réel, je crois que c'est 45-48, quelque chose comme ça.
Bon, il y a 14 disques, hein. Et puis 48, ça reste raisonnable.
C'est sous 50€.
Et puis on a véritablement, là, on est sûr d'avoir tout, quoi, entre guillemets.
Bah, pour tout amateur de Léo, voilà, ça permet de commencer par le commencement en ayant une collection vraiment, je pense, la mieux éditée qui ait jamais été éditée sur ce corpus-là, quoi.
On m'a prêté quatre vieux murs pour y loger mes quatre membres. Et dans ce réduit très obscur, je voulus installer ma chambre. Pour lui donner un air coquet, je suspendis aux murs en pente les diplômes que j'ai manqués et mes décorations absentes. Sur une table, les photos de celles qui se refusèrent. Sur des rayons, les in quarto des livres que je n'ai su faire. J'ai mis derrière les fagots l'écran cru de notre royaume, les Chambertins et les Margots, dont j'ignore jusqu'à l'arôme. Et dans un vaste coffre-fort, rangés en pile régulière, toutes les valeurs et tout l'or que j'aurais pu gagner naguère. La fenêtre se glissant, voici qu'un doux rayon bleuâtre est venu remplir mon théâtre d'un mobilier étourdissant. Voici des tapis d'ambition, voici des tentures de rêve, voici qu'un rideau se soulève sur un chevalet d'illusions. Voici des coussins de serment, ouvrant des fauteuils de promesses, et puis des colliers de tendresse et des bouquets de sentiments. Voici le mirage de l'art, voici des songes en rasade. Le divan de Scheherazade et le clavecin de Mozart. La chimère en quatre secondes, décorateur sur champ d'azur, a fait de mes quatre vieux murs la plus belle chambre du monde. La 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 la
la. L'intégrale qui est disponible à Publico. Eh oui. Allez.
On va peut-être justement passer en revue un petit peu chacun des disques qui sont proposés. On commence avec le premier, Le Temps des Roses Rouges, Léo Ferré, donc sorti au Chant du Monde avec.
C'est du piano voix.
Voilà.
Et en fait, bon, c'est des chansons que Léo a comment dire, toujours beaucoup aimées parce qu'il les a reprises, il les reprend donc, dans de meilleures conditions techniques 3 ans après pour réenregistrer. Et puis il va les reprendre chez Barclay en 69 aussi, où il fait un album alors, arrangé par deux failles. Bon, beaucoup de gens trouvent que c'est un peu... moyennement réussi.
Ouais.
Bon, il y a des réussites et des choses un peu moins réussies, mais et puis c'est des chansons qu'il va chanter, par exemple Le Bateau Espagnol ou Flamenco de Paris. Dans les années 70, il les reprend et puis il les reprend jusqu'à la fin en fait.
Ouais, il les chante beaucoup sur scène.
Ouais, voilà. Ouais, donc c'est quelque chose. Pas toutes, parce que L'Inconnu de Londres, L'Esprit de famille, c'est des choses plus satiriques, plus dans un esprit plus daté. Mais c'est un corpus qu'il aime, je pense, à quoi il était très attaché, Léo. Et puis c'était ses premiers enregistrements officiels qui allaient être commercialisés, donc je pense que pour un artiste, c'est toujours important. Et alors dedans, bah, y a La Vie d'artiste, qu'on connaît peut-être plus par la version Barclay parlée. Il y a Monsieur William qui l'a enregistré, mais qui n'a pas été diffusé à l'époque. Bon, Monsieur Toublanc, on en a parlé, c'est une charge contre Pie XII, qui se met dans la peau d'un ouvrier d'Aubervilliers qui prend partie le pape. Donc évidemment, on sent déjà l'anarchie du gars.
On sent l'anticléricalisme voilà. qui pointe, et ça de manière très claire, quoi. C'est...
Des petites chansons très... à Saint-Germain-des-Prés, qui est une chanson très chouette. Où,
Oui, là, on est vraiment dans Paris. Hein. Oui. Il y a beaucoup de choses sur Paris. Là.
L'île Saint-Louis.
L'île Saint-Louis,
Flamenco de Paris.
Bon, le Flamenco
Barbarie,
de Paris.
Qui montre un peu voilà, ce que c'est que la rue, avec les prostituées, les marlous. Les...
Oui, tout à fait.
Et Le Temps des Roses Rouges. Alors, ça s'appelle Le Temps des Roses Rouges. Il a été nommé comme ça, l'album, parce que Le Temps des Roses Rouges n'a pas été repris par Léo. Quand Léo, en 53, réenregistre ses titres dans de meilleures conditions, elles y sont toutes, sauf Le Temps des Roses Rouges. Et alors, il y a une légende qui dit que Le Temps des Roses Rouges serait crypto-anticommuniste. Et donc, ah oui, évidemment, donc, oui, le champ du monde n'était pas très joyeux, donc il l'aurait squeezé.
D'accord.
Je ne sais pas, c'est, encore une fois, c'est très. Quand on écoute la chanson, c'est une chanson un petit peu, comment dirais-je, d'apocalypse, de revanche, de révolution, mais de révolution revancharde, quoi, du couteau entre les dents, un peu, de la revanche des. Et alors, est-ce que c'est anticommuniste ? Je ne sais pas. C'est flou. Ouais. Mais chacun est libre d'interpréter comme il le veut. Et donc, c'est pour ça que, du coup, cette compilation des enregistrements 78 tours a été nommée d'après cette chanson qui a été caviardée après. Voilà.
Donc, le deuxième CD de cette intégrale, c'est les mêmes chansons.
Chansons de Léo Ferré, c'est le titre. Donc là, il y a les mêmes titres, sauf Le Temps des Roses Rouges. Dans de meilleures conditions techniques.
Ouais, voilà.
Les interprétations sont proches, mais diffèrent parfois. Les intros ne sont pas les mêmes. Après, c'est vraiment la sensibilité de chacun. Mais le troisième disque, après, du coup, c'est quand il va chez Odéon.
Paris Canaille. Et là, pour le coup, comme tu nous disais, c'est son, bel et bien, à proprement parler, son premier album.
Voilà.
D'accord.
Ce qui est important, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte qu'il choisit des titres. C'est une sorte de portrait chinois de lui-même. Les chansons, ouais. il cherche à. C'est sa carte d'identité, quoi. Il dit voilà, c'est moi. Et donc, bon, il y a Monsieur William qui est orchestré, il y a La Chambre. La Chambre qui est une très chouette chanson qui fait partie. Monsieur William, La Chambre, c'est un peu des piliers de son répertoire des débuts, ouais, à Saint-Germain. C'était des choses qui étaient très appréciées du public et puis que lui-même, c'était un peu des marqueurs de son univers, on va dire. Alors, La Chambre, étonnamment, Monsieur William n'est pas écrite par lui et La Chambre non plus. Mais je pense qu'il s'est beaucoup reconnu dans La Chambre. La Chambre, c'est une évocation onirique. C'est un homme qui rêve de ses succès qu'il n'a pas eu en imaginant les diplômes qu'il n'a pas eu sur les murs, les divans avec des femmes, les œuvres d'art, les livres qu'il n'a pas écrits, tout ça. Donc c'est vraiment une chanson de rêveur dilettante, en fin de compte. Et c'était, à cette époque-là... parce qu'on a l'impression d'un Léo que rien n'arrête, machine de guerre, mais...
Ça, c'était lui à ce moment-là ?
Dans sa jeunesse, oui, je pense que c'est quelqu'un d'un peu rêveur, un peu indécis, qui hésite entre plusieurs routes, qui vit comme ça, qui est pas, qui s'est pas forcément mis sur les rails de « je serai un chanteur à succès ». Il rêve plus d'une carrière de compositeur, donc du coup, il est dispersé entre plusieurs choses. Il fait des émissions à la radio parce que ça lui fait des rentrées d'argent. Il chante ses chansons, il va courir le cachet, c'est précaire. Et par ailleurs, il compose son oratorio. Là. Quand sort Paris Canaille, c'est 53. Dessus, il y a le pont Mirabeau d'Apollinaire. Je sais que tu aimes beaucoup Apollinaire. Bon, moi, je trouve que cette version-là, elle est un peu gâchée par l'arrangement. Et d'ailleurs, il y a une version piano-voix dans les documents à la fin que je trouve plus agréable.
Ah, je suis entièrement d'accord avec toi.
Mais c'est pas le premier Apollinaire qui met en musique, en fait. C'est un peu comme un truc collatéral. C'est-à-dire qu'en fait, il vient de mettre en musique pendant un an, d'orchestrer, et de mettre en musique et orchestrer la chanson du Mal-Aimé. Donc tu vois, il est déjà quand même immergé. Et c'est ce qu'on voit dans les documents à la fin, c'est qu'il a fait des choses en 52 pour un film, de sa 4 cordes, c'est 51, il y a des passages symphoniques. Ça vient un peu en parallèle de la chanson, mais c'est ce qu'il habite. Et je pense qu'à ce moment-là, il a pas encore pris la décision pleine et entière de dire bon bah puisque c'est comme ça, puisque ça marche pas vraiment la carrière classique, je serai chanteur et je ferai mon truc. Et le pont Mirabeau, finalement, c'est une manière de dire bon bah voilà, j'ai bossé sur Apollinaire, tiens, je vais faire un petit Apollinaire en bonus dans mon album qui sort. Voilà, histoire de dire que j'ai quand même, moi j'ai lu les poètes, ça m'intéresse, et c'est un peu son grand frère en poésie, Apollinaire. Il y a des interviews, tu sais, de lui où il dit que c'est en lisant Apollinaire qu'il a vraiment, ça l'a mis sur les rails, quoi, sur le bon chemin poétiquement parlant. Je pense qu'il est très influencé par Apollinaire. Et t'as Vitrine.
Vitrine, bien sûr.
Qui est quand même un peu une super charge contre les débuts de la société de consommation, la profusion de l'offre devant des gens qui peuvent pas se payer, quoi, les trucs qu'il y a dans les vitrines. En fait, t'as plein de chansons qui sont un peu kaléidoscopiques, qui vont dans plusieurs sens et qui sont assez représentatives du visage qu'il a voulu donner de lui-même en tant qu'artiste. «
Amant plaqué par la vie, amour brisé c'est la vie, regard braqué sur la nuit, au bout du quai c'est fini, chagrin qui mord aujourd'hui, demain encore puis l'oubli, le cœur s'en va résigné, t'en fais donc pas c'est gagné, mais gagné quoi savez-vous, quatre planches de bois et des clous. Si tu veux faire ton bonheur, prends les choses comme elles sont. Solitaire sur la terre, l'homme chante sa chanson, mais rien jamais ne lui répond. Les sentiments c'est coûteux, l'or et l'argent c'est bien mieux, on passe le temps comme on peut, ça fera tant cher monsieur. Gros capital bien compté, tout m'est égal si j'en ai, c'est le festival de bonté. Le principal c'est de gagner, mais de gagner quoi savez-vous, quatre planches de bois et des clous. Si tu veux faire ton bonheur, prends les choses comme elles sont. Sur la terre, ça change guère, c'est toujours la même chanson, mais la vie chante à sa façon. Le temps qui court sous la peau, le bon Dieu sourd comme un pot, la trouille pour le magot, et tout autour des badauds. Donne-moi chrétien des tickets, parlant latin s'il te plaît, dernier refrain chuchoté, dis-moi combien pour gagner. Pour gagner quoi savez-vous, quatre planches de bois et des clous. Si tu veux faire ton bonheur, prends les choses comme elles sont. Sous la terre, la poussière, c'était l'homme et sa chanson. Quand on est mort, c'est pour de bon.
Quatrième album, Le Piano du Pauvre, avec là pour le coup... Non, j'allais dire que des choses inédites, mais non, il y a quand même déjà une graine d'ananas qu'on a déjà avant.
Hein, non, 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 non,
non, c'est... d'accord.
Là, bah, c'est des choses qu'il n'avait pas encore du tout enregistrées.
D'accord.
Mais parfois qu'il chantait depuis plusieurs années. Hein. À la scène, justement, de Cosimon, ouais. C'est un des premiers textes. C'est le premier texte de Cosimon qui met en musique quand il arrive à l'automne 46. Donc, si tu veux, c'est un truc qui fait partie de son réservoir de chansons. Qui chante à Saint-Germain selon au gré de ses humeurs, mais qu'il ne met en musique qu'en 1954, donc au moins oui 6, 7, 8 ans après. Là, cet album c'est à 25 cm à la base, donc 8 chansons. Il y en a deux en plus parce qu'on a retrouvé des instrumentaux de deux des chansons. Où la particularité c'est que les 4 premiers titres sont arrangés par Jean Faustin, mmh. Les 4 autres, ce qui était la phase B. C'est deux sessions qui sont scindées, qui n'ont pas été enregistrées dans la foulée, très différentes. Parce que dans la deuxième phase, donc en fait les quatre derniers titres, donc Mon Petit Voyou, Notre-Dame de la Mouise, Graine d'Ananar et Merci Mon Dieu, Léo a fait les orchestrations lui-même et c'est des orchestrations très symphoniques. En fait, il est accompagné par un orchestre symphonique. Et là, ce qui est étonnant, c'est de voir que quand on écoute ça, c'est un peu ce qu'il fait 20 ans après. C'est déjà en place, c'est déjà là, c'est le Léo qu'on connaîtra plus tard. C'est plus sophistiqué, ça montre aussi que c'est plus sophistiqué. Son langage symphonique n'est pas tranche avec ce que propose par exemple Jean Faustin, qui est donc l'arrangeur qui a arrangé son album précédent, Paris Canaille, et celui-ci, les quatre premières chansons. Enfin, la deuxième à la scène, c'est un duo avec Jean Cardon, c'est là qu'il rencontre Jean Cardon, qui est une sorte de virtuose de l'accordéon, qui va l'accompagner jusqu'en 63. Ça va être vraiment un des piliers... Et c'est pour lui qu'il va écrire la chanson Mister Georgina, d'ailleurs.
D'accord.
Georgina, je crois que ça veut dire, en argot italien, ça veut dire accordéon. Donc, Monsieur Accordéon,
okay.
En fait.
Ok.
L'Homme, c'est une chanson qui va encore avoir un succès par Catherine Sauvage. Elle va remporter le Grand Prix du disque 54 avec cette chanson.
Ah, d'accord.
Donc, ça entérine. Et Le Piano du Pauvre, par Léo, il va être repris, cette chanson va être reprise par plusieurs interprètes et ça va être un autre succès qui va confirmer un peu le succès commercial de Paris Canaille et là ça va déboucher sur l'album suivant, pas tout à fait mais ça va déboucher sur le fait que Léo va avoir sa chance, il va passer à l'Olympia, il va être programmé l'Olympia qui vient juste d'être reprise par Cocatrix.
Ouais, Cocatrix,
et donc il va passer en, comment dire, vedette américaine. c'est-à-dire en première partie, quoi, grosso modo, parce que c'était la formule musicale, donc il y avait plein d'artistes, y compris pas des chanteurs, donc c'était un peu d'où le titre de variété, hein, tu sais, il y avait des jongleurs, des machins, des comiques, et puis il y avait la vedette américaine, qui était la fin de la première partie, entracte, et puis après, tu avais la vraie grande vedette, la tête d'affiche, qui faisait son spectacle pendant une heure et demie, deux heures. Et donc, il va passer en 54, là-bas, en vedette américaine, de Josephine Baker.
Ah ouais,
qu'il adorait, et puis qu'il l'a croisé dans un couloir et qu'il lui a même pas adressé la parole. Il était rien, quoi. C'était, voilà, s'en foutait, quoi. Et puis, en 55, il va passer comme vedette. Et je pense que, oui, c'est pas pour ses beaux yeux, c'est pas pour l'amour de l'art, c'est parce que, Paris Canaille, c'était Bankable, la chanson, et puis qu'il a confirmé avec le piano du pauvre. Il y a des interviews qui existent de l'époque dans la presse où il explique comment les ventes augmentent suite à Paris, suite au piano du pauvre, qui est une chanson que moi j'aime bien, que j'aime vraiment bien, peut-être plus que Paris Canaille d'ailleurs, mais bon là c'est mes goûts personnels, mais c'est une chanson que je trouve musicalement très marrante, très percussive, très canaille justement, sur finalement le piano du pauvre c'est l'accordéon. Et comme quoi il met, en fait ça c'est très Léo, c'est très symptomatique de Léo, c'est-à-dire que il met en regard l'instrument populaire par excellence, donc le populaire, la rue, l'espèce de verdeur comme ça, avec la culture consacrée, les grands solistes, au détriment de celle-ci. Il se moque de la culture, tu vois, des hiérarchies symboliques, de la culture noble et la culture non noble. Et il y a un petit côté comme ça, le peuple qui fait la nique, soi-disant au bourgeois, on va dire. Je le dis, c'est pas formulé comme ça, mais ça peut être interprété comme ça, finalement. Et c'est très ludique, en fin de compte. Il le fait avec, en jouant avec les mots, il y a des rebonds. Enfin, moi, je trouve que c'est une chanson très chouette. Et je trouve ça très symptomatique de Léo, parce qu'en fait, finalement, Léo, c'est un mec qui avait bossé la musique, qui rêvait de... qui connaissait les grands compositeurs, puisque ça, c'est 54, et en 53, jusqu'à l'été 54, il anime son émission Musique Byzantine. Donc tu vois, quelqu'un d'assez savant en fin de compte et de très cultivé, mais qui finalement prend le parti d'aller puiser dans ce réservoir, qui en fait quelque chose, enfin comment dire, un tremplin poétique, d'aller prendre des choses populaires et de les manier comme un aristocrate le fait, avec une forme de classe en fait, si tu veux, de sophistication, mais en gardant, et c'est peut-être ça ce qui est politique à ce moment-là dans ce qu'il fait, c'est-à-dire de brandir le populaire à la face des valeurs établies, esthétiques, hein, je parle des valeurs, tu vois, qu'est-ce que c'est que la bonne musique, la belle musique, parce que je pense que Léo c'était un type qui avait ce recul parce qu'il n'a jamais été vraiment un pur chansonnier, malgré tout. C'était un type qui faisait de la chanson en ayant conscience de faire de la chanson. Et ce côté un peu extérieur au chant de la chanson, c'est à la fois ce qui a peut-être freiné son ascension, où les gens se sont dit « mais c'est qui ce mec ? C'est, ouais, c'est trop intello, c'est trop... » c'est très difficile de bien mesurer la façon dont il a été perçu. On peut le voir un peu dans des rapports de journalistes, de ce que disent les journalistes, mais bon, qu'est-ce que pensait le public, tu vois, quand tu n'écoutes, alors je vais sauter de deux disques, mais le disque suivant, c'est un disque, bon, on peut aller vite dessus, qui s'appelle La Rue. Qui a peu de titres, qui en a 8, mais en fait, qui ne correspond pas à un album. Ça, c'est un petit arrangement avec la réalité historique. La couverture, c'est un disque qui est sorti, c'est un EP. Tu vois, il y a 4 titres dessus, sur la couverture. Donc en fait, il n'y avait que 4 disques. Et en fait, les 3 autres disques, chansons. Ou les 4 autres chansons, pardon, les 4 chansons, arrangées par Jean Faustin, toujours, avec des ondes Martenot, assez sympa, très... avec beaucoup d'argot, mais entraînante, quoi, chanson entraînante, sur toujours les thèmes de prédilection, de voilà, un peu vise la réclame, qui donc sur les affiches de pub, qui reprend un peu Vitrine, en fait, en moins bien selon moi, mais La Rue, qui est donc cette espèce de oui, tu disais le côté parisien, L'âme du rouquin, qui à mon avis est un clin d'œil à Baudelaire, tu sais, il avait fait un poème qui s'appelait L'âme du vin, et le rouquin, en argot, c'est le kill de rouge, le vin. Et puis 4 autres chansons qui ont été enregistrées dans des circonstances différentes, où Léo est enregistré, s'accompagne à la guitare. Enfin, c'est pas lui, il est accompagné à la guitare par Barthélémy Rosso. Et ça, c'est un des autres musiciens qui va venir s'agréger, vont venir s'agréger pour former son noyau dur de musiciens qui vont l'accompagner. Tu avais Cardon à l'accordéon, tu as Rosso à la guitare, qui est un type que, qui est mort jeune, et on ne sait pas trop. Bon, sa biographie n'est pas très précise. Il est essentiellement connu pour avoir accompagné Léo et puis pour avoir été seconde guitare, enfin c'est lui qui faisait les solis sur les albums studio de Brassens dans les années 60, tu vois, mais sur des gros titres, hein, les trompettes de la renommée, les copains d'abord, tout ça. Je sais pas s'il est sur les copains d'abord, mais enfin bon, en gros, il est connu pour ça. Mais c'est un type qui a été un requin de studio et qui a fait énormément d'accompagnement de guitare classique en fait. Et bon, moi je trouve que c'est un peu le Henri Crolla, je ne sais pas si tu connais, qui était un guitariste qui est mort jeune aussi, un peu la nébuleuse Django, mais d'accord, qui mettait beaucoup d'émotion dans sa manière de jouer de la guitare et qui accompagnait Montand. Et je pense que Léo était très content d'avoir son Crolla à lui avec Rosso, et que donc là, il faisait de la... C'est des trucs qu'il a enregistrés à un autre moment, et que donc on a assemblé pour faire un ensemble. Parce qu'en fait, ce EP, La rue vise la réclame, Monsieur mon passé, l'âme du rouquin, est à mon avis sorti en 55, juste pour préparer le passage à l'Olympia, d'avoir un truc, une nouveauté à proposer en disant voilà, allez, hop, Léo passe à l'Olympia. Et c'est l'année où il passe en première partie de Joséphine Baker. Mmh. Et là, bon, il casse pas la baraque, mais c'est suffisamment probant pour que Cocatrix, l'année d'après, lui dise « Bon, allez, on fait en vedette. » Et il passe en vedette, et c'est l'objet du disque numéro 6, puisqu'en fait, ça donne lieu à une captation.
De nos tanières de drap blanc, de nos grabats mangés aux rêves, de notre pain de temps en temps, et de nos miettes marches ou crèves, avec la vie au beau milieu, et puis la faim qui nous soulève. Nous te disons merci, mon Dieu. De nos salaires raccourcis et qui rallongent notre gêne, de l'or qui pousse aux quatre jeudis, de nos éternelles semaines, avec la rage au beau milieu et puis l'envie qui nous malmène. Nous te disons merci, mon Dieu. De notre terre à ciel perdu, de nos fusils à cicatrices, de nos enfants qui n'ont pas pu éloigner de la mer Calice, avec la guerre au beau milieu, et puis le héros qui s'y glisse. Nous te disons merci, mon Dieu. Des chevaux d'avoine posthumes qui traînent leur dernier convoi, des chiens perdus que l'on transhume vers leur dernier pipi de croix, avec la mort au beau milieu et la pitié qui nous consume. Nous te disons merci, mon Dieu. De cette croix du Golgotha qui crucifie tant de poitrines, et de ton fils qui n'a fait ça que pour la peau et les épines, avec l'amour au beau milieu, et puis ton ciel qu'on imagine. Nous te disons pourquoi, mon Dieu.
C'est la fin du Féricom Club.